Les autorités russes ont parlé du Caucase du Nord, mais justement, Vladimir Poutine a dit, au bout de 2 jours, la première fois qu'il a pris la parole, a dit que ce n'était pas la piste tchétchène. Et pourquoi ça? Parce que, précisément, en 1999, quand il est arrivé au pouvoir, que des explosions ont eu lieu dans Moscou, immédiatement, la piste tchétchène avait été pointée du doigt, alors qu'on n'a jamais eu de preuves. La population russe était soudée autour de Vladimir Poutine et avait soutenu très largement la politique russe de reprise de la guerre en Tchétchénie. Et là, en 2011, c'est-à-dire plus de 10 ans après la reprise de la guerre et quelques années après un discours russe qui est de dire que tout est normalisé en Tchétchénie, au contraire, Vladimir Poutine a bien veillé à dire qu'il ne s'agissait pas de la piste tchétchène, puisque pour lui, ce serait un désaveu total par rapport à la politique qu'il a menée en Tchétchénie et qui, dans sa version officielle, est une Tchétchénie totalement pacifiée, avec un président tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui serait totalement populaire et un terrorisme qui serait totalement éradiqué.
Donc l'attentat de Moscou a été revendiqué par Doku Umarov, tchétchène, chef du groupe rebelle islamiste l'Émirat du Caucase. Est-ce que c'est un groupe rebelle que l'on connaissait déjà?
L'Émirat du Caucase et Doku Umarov sont très connus pour les Nord-Caucasiens, c'est-à-dire que l'Émirat du Caucase a été proclamé à l'automne 2007, après une guerre de type de libération nationale, disons classique, avec globalement un projet national tchétchène indépendantiste, globalement laïque et qui se voulait démocratique. Il y avait vraiment une déclaration indépendantiste et un projet indépendantiste tchétchène qui petit à petit s'est effacé au profit d'un projet islamique transnational. Doku Umarov avait déjà revendiqué les attentats de Moscou du mois de mars dans le métro. Donc c'est une figure parfaitement connue et des autorités russes et de toute personne qui travaille sur la question. Alors, de temps à autre, il est annoncé comme mort et puis finalement, on s'aperçoit qu'il n'est pas mort du tout et qu'il continue à essayer de coordonner cette espèce d'émirat qui est en fait une suite de Jamaat, de groupes clandestins combattants islamistes qui sont dans le maquis, dans la montagne et dans la forêt, et qui mènent des actions contre des policiers, contre des représentants des forces de l'ordre sur le plan local. Et donc, de temps en temps, une action particulièrement spectaculaire parce que médiatisée dans un lieu à Moscou ou dans un coin beaucoup plus stratégique. Mais cette guerre des rues, elle continue quotidiennement.
Et alors, est-ce que Moscou, concrètement, a les moyens de faire face à cette menace terroriste ?
On voit bien que les réponses que Moscou tente d'apporter sont des réponses d'ordre économique et social, c'est-à-dire en prenant comme argument la question du faible développement économique de ces régions et en attribuant aux violences qui se développent des causes presque exclusivement économiques et sociales. Or, c'est occulter complètement un problème politique. Et il y a véritablement un problème colonial derrière tout ça. C'est-à-dire que, et derrière la revendication indépendantiste tchétchène à la fin de la période soviétique, et y compris maintenant dans ce que diffusent les groupes qui sont autour de Doku Umarov sur leur site internet, on revient toujours à la rhétorique de l'Empire, c'est-à-dire de faire tomber les représentants de l'Empire, l'Empire de Mécréant, Moscou, la Russie, etc. Donc on se retrouve quand même dans une affaire qui est très interne à la Russie et qui concerne un face-à-face entre le Nord-Caucase, qui est une région colonisée au XIXe siècle et soviétisée au XXe siècle, mais dont une partie n'a jamais accepté justement cette colonisation et cette soviétisation. Et donc la question politique, elle demeure.